Et voilà, et donc moi je me suis dit, tiens, des privilèges, mais c'est quoi un privilège? Et donc j'ai fait quoi? Un petit historique des privilèges. Et donc pour le petit historique des privilèges, et là on va voir que ça bouge quand même pas mal, il faut carrément remonter au Moyen-Âge. Et donc au Moyen-Âge, les privilèges, là, à ce moment-là, c'est un terme juridique. Donc ce sont des droits qui sont donnés en fait à certains membres d'un groupe, d'une communauté. Et donc quand on parle de communauté à ce moment-là, on parle plus de groupes comme clergé ou la noblesse. Et puis aussi, donc on a les groupes, les communautés, mais aussi des entités géographiques comme les provinces ou les villes. Alors du coup, tous les habitants du royaume, en France évidemment, on parle du royaume de France, étaient couverts par au moins un privilège, mais il y avait quand même néanmoins d'autres qui n'en avaient pas. Et c'est ceux qui n'appartenaient à aucun groupe, ils n'avaient donc aucun privilège, aucun droit. Alors ces privilèges ont été instaurés au départ contre l'arbitraire du roi. Donc là, au départ, donc, on se dit, tiens, c'est quand même un privilège, ça peut être intéressant. Donc, contre l'arbitraire du roi, par la même occasion, les privilèges sont perçus, donc du coup, par le roi, comme un frein à la centralisation et à l'unification du territoire et surtout à son pouvoir tout-puissant. Du coup, dès le XVe siècle, un mouvement de réforme s'amorce qui va mettre à mal le statut des privilèges. Ce premier mouvement entraînera déjà une série de révoltes, comme la Fronde en 1648. Et à ce moment-là, on est après la mort de Louis XIII et de Richelieu, qui ont entamé en fait cette volonté d'unification du royaume. Et puis arrive Louis XIV, qui lui est roi, mais encore mineur. Donc en fait, on continue un peu ce mouvement amorcé. Et donc on appelle ça un mouvement de rationalisation qui va s'accélérer et qui va se durcir donc sous le règne de Louis XIV, une fois qu'il sera donc majeur. Et donc l'idée, c'est d'harmoniser les privilèges. Et donc derrière tout ça, il y a quoi? Ben, il y a la volonté de faire, comme on l'a déjà dit, un territoire unifié, mais aussi, évidemment, de limiter par la même occasion les contre-pouvoirs locaux. C'est ce qu'on appellera donc la monarchie absolue, mais pas pour si longtemps que ça. Au siècle des Lumières, c'est-à-dire dès le début du XVIIIe siècle, les privilèges deviennent un terme péjoratif, comme le signe des inégalités de la société française, mais aussi des abus des ordres privilégiés, à savoir la noblesse et le clergé. Et puis arrive quoi? 1789. Le peuple en a marre et le fait savoir avec entre autres la prise de la Bastille le 14 juillet, mais aussi, et là c'est moins symbolique, il y a la fameuse nuit du 4 août qui est en fait la nuit de l'abolition des privilèges. Cet événement marquera la fin de l'Ancien Régime et à partir de là, en tout point du royaume, tous les hommes seront jugés selon un droit unique, le même pour tous, a priori. Les privilèges existent-ils toujours aujourd'hui? Alors voilà, c'est une question qu'on peut poser aujourd'hui derrière cette fameuse nuit du 4 août. On se souvient, enfin on s'en souvient, on l'a étudié surtout, que le bas clergé et l'aristocratie a refusé, a renoncé à ses privilèges. Donc on se dit qu'aujourd'hui, il n'y en a plus.
Oui, on pourrait se dire ça, effectivement. Alors, les privilèges dont tu parles, c'est vraiment un privilège plutôt de classe, un privilège des dominants, d'un point de vue plutôt du capital économique et du pouvoir politique. Et ça, effectivement, c'est une des structures, un des rapports de domination, qui a été théorisé par de multiples personnes, mais on pourrait dire au moins, après cette période-là, bien plus tard, à partir du 18e, 19e siècle, a été théorisé plutôt, enfin, qui se transformait en une structure de domination qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme.
Non.
Et donc, qui est
Ben en fait,
plutôt.
c'est la domination du capital, enfin, c'est le privilège du capital.
Exactement. Mais on peut pas nécessairement dire qu'avant, à l'époque de Louis XVI, et même avant la Révolution française, le capitalisme existait tel qu'il existe aujourd'hui, mais il était bien amorcé. Bon, on peut revenir évidemment sur l'histoire du capitalisme plus tard et voir à partir de quand effectivement on peut considérer que le capitalisme est né. Mais en tout cas, disons que oui, effectivement, ça c'est le prolongement, c'est le capitalisme, c'est-à-dire un pouvoir économique et qui dès le départ d'ailleurs a été fort connecté au pouvoir politique aussi, plus tard après au pouvoir médiatique, puisque le capitalisme a investi les médias, etc. Et donc ça a entraîné évidemment des rapports de classe et qui est un rapport de domination dans lequel il y a effectivement des gens plus privilégiés que d'autres. Mais en fait, ce qu'on a théorisé après, c'est d'autres rapports de domination, qui sont celui dont on a parlé l'année dernière, qui est le patriarcat, c'est-à-dire un rapport de domination de genre, homme-femme. Et il y a aussi un autre rapport de domination structurelle qui existe sur toute la planète, qui est le racisme. Et qui existe évidemment plus ou moins en fonction des cultures, des pays, qui existe d'un point de vue nord-sud, mais nous-mêmes étant aussi vivant dans des pays qui avons été, enfin, des pays qui ont colonisé d'autres pays, des pays du Sud, on a été marqué aussi par une culture du racisme, donc c'est-à-dire un récit de ce qu'étaient les personnes noires, de ce qu'étaient les personnes du Sud, dans toute leur incompétence, dans toute leur primitivité, qui est en fait encore marqué aujourd'hui dans la manière dont on peut voir les personnes non blanches en Belgique, et qui du coup se marque même dans les personnes qui se disent pas nécessairement racistes, mais qui de manière générale est instituée. On le voit, notre parlement qui est pas très très représentatif qui est très très blanc quoi, les médias qui amorcent quelque chose d'un peu plus diversifié mais qui sont encore très très blancs, mais où il y a finalement quand même du racisme institutionnel, parce que ça reste plus compliqué pour une personne non blanche d'accéder à un emploi, d'accéder à un logement. C'est des personnes qui doivent aussi faire preuve de faire beaucoup plus leur preuve que d'autres dans plein de métiers. Et donc voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est les trois rapports de domination dits classiques, racisme, sexisme et capitalisme. Et à côté de ça, évidemment, nous dans la campagne Démasquons les privilèges, on introduit encore d'autres notions qui sont celles des privilèges liés au validisme, donc c'est-à-dire les dispositions physiques, des privilèges liés à l'identité religieuse et à l'identité sexuelle. Et donc, par rapport à ces...
Là, je peux t'arrêter, Dominique. Oui, pourquoi tu parles d'identité sexuelle ? Parce qu'on parle souvent
d'orientation sexuelle.
D'orientation sexuelle. Ouais. En fait, je peux tout à fait... Oui, non, il n'y a pas de... En fait, je suis pas arrêté sur les termes, sur les terminologies.
D'accord. Non, c'était juste une question.
Oui, c'est ça, s'il y avait une explication derrière. Parce que c'est identité de genre et orientation sexuelle. Et donc ici, comme c'est identité sexuelle, c'est un peu particulier.
Tout à fait. Le truc, c'est que, par exemple, sur la culture queer... Il y a des queers qui vont dire que ça fait vraiment partie de leur identité, quoi. Que c'est une option vraiment culturelle, quoi. Mais qu'on va plutôt classer effectivement dans les orientations sexuelles. Bon, mais voilà, il n'y a pas de classification ou typologie définitive. L'important, c'est effectivement à un moment prendre conscience que, en fonction du contexte social et politique dans lequel on a plus ou moins de privilèges sur ces six types de privilèges que j'ai décrits. Et après, c'est de savoir, évidemment, et c'est ce qu'on va faire pendant 3 jours au Festival Esperanza, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi est-ce que c'est utile d'au moins se situer par rapport à ça, quoi.
Moi, j'avais une question aussi. Tu vois, une fois que j'ai vu la thématique, je me suis posé pas mal de questions. Donc, sur le fait aussi que, moi, personnellement, je suis une femme blanche, lesbienne. Ouais, je crois que c'est
pas mal déjà. Ouais.
De 45 ans, non, ouais. Pas encore, presque. Voilà, donc ça, du coup, je me pose des questions par rapport à mes privilèges. J'ai fait le test, on va en reparler juste après. Et puis, tu vois, je me dis, voilà, quelqu'un, une femme noire, va postuler un emploi, au même que le mien, par exemple. On a les mêmes capacités, le même diplôme, et c'est moi qui vais être prise, d'accord ? Donc moi, je me dis, je suis privilégiée. Mais est-ce que j'ai un privilège ? Parce que si on part de l'idée que tout le monde a droit au libre accès à un emploi, à un logement, est-ce qu'on ne parle pas plutôt de discrimination plutôt que moi qui suis privilégiée ? Enfin, je suis privilégiée, mais est-ce que j'ai des privilèges par rapport à l'autre ? Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois bien.
Une différence entre privilégié et privilège, en fait.
Ouais. Non, en gros, parler de privilège, c'est vraiment une autre manière, c'est juste avoir un autre focus que celui de la discrimination.
D'accord, du coup, on ne parle pas de la personne
discriminée, mais on parle de la personne qui est pas discriminée.
D'accord, voilà.
Et c'est justement ça qui est intéressant dans ce type de théorie, en fait, c'est de pouvoir changer l'angle, tout simplement. En fait, on peut voir effectivement les rapports de domination autrement si on prend l'angle de celui qui n'est pas discriminé, et donc on va considérer qu'effectivement il est privilégié par rapport à celui qui est discriminé. Mais l'objectif, évidemment, c'est de considérer que tout le monde doit pouvoir avoir les mêmes droits et qu'on n'est pas dans une optique où on voudrait enlever des droits aux personnes qui sont privilégiées. Ça dépend dans quel type de gros privilèges de classe, probablement. Mais en tout cas, pour la majorité des gens dits privilégiés, des personnes blanches qui peuvent se balader le soir sans devoir penser à des stratégies d'évitement de certains quartiers, qui peuvent embrasser leur partenaire dans la rue sans avoir peur d'une réaction quelconque, qui peuvent avoir accès à un emploi ou à un logement de manière à armes égales avec n'importe qui. Voilà, ce sont des droits que tout le monde devrait pouvoir avoir, et en l'occurrence il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres par rapport à ça, mais l'idée c'est pas leur enlever les droits mais faire en sorte que ces droits soient égaux pour tout le monde, quoi.
C'est ça, tu voulais
Non, c'est exactement ça.
Ok, voilà.
C'était l'explication qui me manquait, effectivement, entre privilège et discrimination. Donc, voilà.
Et voilà, moi, je me disais, est-ce qu'il y a une hiérarchisation des privilèges? Est-ce que... Oui, il y a une hiérarchisation, donc...
Alors, c'est toujours dangereux, quoi, etc. Là.
Évidemment, c'est drôle. Enfin, le jeu peut être intéressant,
ça.
En fait.
Ouais. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est... il n'y a pas de hiérarchisation des rapports de domination. Donc c'est vraiment important de considérer que quand on veut se libérer d'une oppression, que ce soit celle du genre, ou que ce soit celle de l'orientation sexuelle, que ce soit celle du racisme, ou même dans les combats de manière générale, que ce soit celui de la lutte contre le climat par exemple, on ne hiérarchise pas. Parce qu'on ne fait pas de concurrence de la souffrance, on ne fait pas de concurrence de la violence. Et effectivement, pour certaines personnes, il y aura des urgences plus que d'autres. Mais nous, en tant que personnes qui devons combattre, on ne peut pas dire ce combat-là est plus urgent. Moi, en tant que...
Non, je parlais de privilège.
Oui, c'est ça. Non, mais donc du coup, je remettais juste les bases par rapport à ça. Alors, par rapport au privilège, oui, c'est certain, en fait, il est dangereux de commencer à classer les gens sur une échelle de privilèges. Ça n'a même aucun intérêt de le faire. Par contre, si on veut, on peut. C'est-à-dire qu'une femme musulmane, noire, sans papier, lesbienne... Avec le foulard, sera de facto en bas de l'échelle des privilèges. Ça, c'est sûr et certain. Donc, d'un point de vue théorique, on peut le faire. Et je sais qu'il y a, dans les théories intersectionnelles, des chercheurs qui se sont aventurés sur ce terrain-là. Mais très vite, le problème, c'est que c'est infini, en fait, dans la manière de théoriser, d'essayer de chercher, de tout essayer de cadrer. Non, en fait, le principe, c'est qu'on ait des outils qui nous permettent de nous situer dans les rapports de domination, de voir ce qu'on peut faire pour être allié dans certains combats, de voir ce qu'on peut faire pour être plus inclusif. Faire en sorte que, en fait, je suis dans un autre soi, je suis qu'avec des personnes qui me ressemblent, pourquoi ? Et de pouvoir savoir comment, effectivement, on déconstruit ensemble et collectivement les rapports de domination qui font que, oui, on n'est pas toutes et tous égaux. Pour le reste, si on commence à vouloir tout théoriser, typologiser, hiérarchiser, en fait, on s'embarque dans des théories à rien à voir, on fait que discuter autour d'une table et on n'agit plus sur le terrain.
Un petit morceau de musique ? Voilà, et puis on reviendra juste après, toujours sur Radio Esperanza, radio.esperanza.be.
Thank you.
voilà, Radio Esperanza, première émission de cette édition qui... Radio Esperanza, que vous retrouvez sur le 106.2, sur la bande FM autour de Floref, sur internet radio.esperanza.be, et puis également sur toutes les radios partenaires 48FM, Run, Radio Panique et Radio Campus, UFM et Radio Kichifel à Moucron. C'est bien la première fois, je pense, qu'ils nous rediffusent. Et voilà, ben on les salue, bien entendu. On continue dans notre émission de pire en pire. Empire, entendez ça comme un empire. L'empire du mal. Et on continue à discuter avec Jérôme. Donc Jérôme, en fait, on a un peu zappé le fait de dire que tu étais le responsable de la thématique à Esperanza. Et je crois que ça va aller vachement mieux avec ton casque puisqu'il est accro... Le micro est... Non, d'accord. Ah, t'as trouvé...
Je préfère de loin parler sans micro.
Ok, mais reste bien face à ton micro. Ouais, alors. Voilà. Donc on a un peu oublié de dire que tu étais responsable de la thématique à Esperanza.
Oui, je coordonne la thématique. En sachant qu'il y a plein d'acteurs qui... Bon, ok, ça va, je vais mettre ton casque. Donc je coordonne la thématique, mais avec plein d'acteurs. La thématique, elle se travaille notamment avec une quarantaine de collectifs à qui on confie justement la campagne de l'année. Je crois que c'est assez complètement unique de faire ça, qu'un festival dise ok, ben alors voilà, il y a 40 collectifs qui participent pas nécessairement directement à l'organisation du festival, qui luttent sur toute une série de domaines, et après le festival de l'année d'avant, ben on va travailler la thématique de l'année d'après. Et donc c'est ce qu'on fait pendant tout au long de l'année, et puis après les équipes de d'Esperanza se mettent en branle pour accompagner d'un point de vue plutôt logistique, matériel, les projets et la communication qui a été décidée par rapport à la thématique.
Et donc cette année, on rappelle, hein, c'est donc démasquons nos privilèges. Et donc vous avez lancé un outil, enfin pas vous, hein, on va remettre les lauriers à César, donner à César ce qui était à César, enfin toi, parce que j'ai lu le truc exactement. Donc vous avez proposé une sociologue, comment ça s'est passé? Donc Assina Sema a réalisé un test, un autotest que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous peut faire pour justement voir où on se retrouve par rapport aux privilèges. Comment ça s'est passé avec cette sociologue?
Alors en fait, elle avait déjà collaboré avec le média Les Grenades de l'RTBF, qui est un média justement qui travaille les questions de diversité sur l'RTBF. Et puis Via Via aussi, c'est une sociologue clinicienne dont j'avais entendu parler parce qu'elle avait collaboré avec le collectif 8 mars notamment. Et en fait, elle a la particularité de prendre en compte la question à la fois psychologique et des rapports de domination. Et donc, c'est une sociologue qui approfondit d'un point de vue presque clinique, quoi, les cas psychologiques des personnes qui ont toute une série de troubles, ou en tout cas des mal-être, quoi, mais à travers la question de qu'est-ce que tu vis en fait au quotidien en termes de rapports de domination. Ce que, dans la psychologie classique, en fait, on ne fait absolument pas, on n'étudie pas ça. Et donc, elle expérimente ce domaine-là. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce dont qu'elle a voulu pouvoir faire dans un premier temps, c'est pouvoir communiquer en fait ce que c'est... Oh, je suis désolé, mon téléphone qui n'avait pas sonné.
On l'entendait même pas. On entendait un joli vrombissement. Voilà, on va dire autre chose, un petit murmure.
Et en tout cas, ce qu'elle a essayé de travailler dans un premier temps, et c'est notamment le cas avec le test, qu'on soit personne privilégiée ou personne pas privilégiée, c'est mettre toute une série de situations, visibiliser des situations dont on ne pense absolument pas au quotidien. D'ailleurs, souvent, qu'on soit discriminé ou qu'on ne le soit pas, quoi. Alors moi, je suis plutôt au top des privilèges, quoi. Et donc, dans les questions, j'ai pratiquement mis vrai à tout, toute une série de privilèges. Et donc, en répondant, je me rends compte aussi de toute une série de choses auxquelles je ne dois pas penser au quotidien, alors que d'autres ont cette charge mentale-là. Mmh. Et ça, c'est son premier travail. C'est juste montrer, notamment aux personnes non privilégiées, la charge mentale qu'elles portent au quotidien et qui peut avoir effectivement un impact sur leur état, sur leur tempérament, sur l'état moral, et alors un impact psychologique aussi.
Voilà, parce que par exemple, c'est quand... Ah, samedi à 14h, il y aura l'émission 3 aspirines, 2 d'Afalgan, et là, vous pourrez entendre l'interview de Rokia Bamba, et qui disait que justement, d'avoir... Donc, elle est belge, elle est née en Belgique, elle a grandi, elle a vécu en Belgique depuis toujours. Ses parents sont maliens et ivoiriens. Et voilà, elle dit que d'avoir plusieurs identités, c'est quelque chose de schizophrène. Et c'est vrai que nous, en tant que privilégiés, parce que voilà, je ne sais pas qui a fait le test, t'as fait le test ?
Moi j'ai fait le test, ouais. Et je suis privilégiée.
Donc moi j'ai fait le test, je suis privilégiée.
J'ai toujours pas internet.
T'as toujours pas. Elle n'est pas privilégiée.
Elle n'est pas privilégiée.
Achaïso qui nous fait le Facebook Live, le premier Facebook Live de Radio Esperanza d'ailleurs. Merci, est-ce que tu as fait le test ? On le fera ensemble. Et donc toi, tu disais aussi privilégié. On ne se rend pas compte, en fait, de la difficulté, peut-être pour les autres, de vivre dans une société qui est...
Où les normes sont faites, en tout cas, pour les personnes qui ont le plus de facilité, quoi, dans toute série de domaines, tout à fait. Et donc, c'est en ça aussi qui ça interroge, évidemment, même le Festival Esperanza dans ses structures, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir, effectivement, en tant que festival, comment est-ce qu'on peut être... plus inclusif, mais pour toute une série d'autres personnes, quoi. C'est un secret pour personne de dire que Esperanza fait de la musique du monde, a de la diversité sur scène, mais a un public majoritairement blanc.
C'était une question qu'on s'était posée, ouais. Voilà, Chaïso. Ouais. C'est de se dire, tiens, ce serait intéressant justement de voir au niveau sociologique, quel était le public d'Esperanza. Et c'est vrai qu'il est très, quand on réfléchit, il est très blanc.
De manière intuitive, évidemment, parce qu'on n'a pas des évaluations sur les origines ethniques des personnes.
On a juste notre vue qui permet de...
Mais on peut légitimement se poser la question de savoir, effectivement, on sait qu'Esperanza, même dans sa communication, ne touche pas toute une série de catégories de personnes qui viennent plutôt des milieux populaires, quoi. Des milieux populaires plutôt blancs belges ou des milieux populaires plutôt d'origine étrangère. Et donc on peut aussi, du coup, légitimement se poser la question de pourquoi et de est-ce qu'on a envie est-ce que culturellement, en fait, est-ce que ça peut coller? Parce que quand on ne vient pas de la même catégorie sociale et culturelle, on n'a pas nécessairement la même culture, on n'écoute pas la même radio, on n'écoute pas la même musique. Et donc du coup, est-ce qu'on a envie de le faire ou non? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser actuellement, mais au moins s'en rendre compte et essayer de comprendre si on veut atteindre deux types de public, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Notamment, la question du plan Sacha est super intéressante, c'est-à-dire que
le plan Sacha,
donc c'est plan Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions sexuelles. Donc l'idée, c'est faire en sorte que le festival soit plus safe pour les filles, hein, puisque statistiquement c'est quand même les filles qui sont le plus victimes de cas de harcèlement et de violences sexuelles. Et là, alors, c'est poser la question de savoir, est-ce qu'on ouvre le plan Sacha à d'autres formes d'agression? Et notamment, pour avoir parlé à des femmes musulmanes qui portent le foulard, quand elles vont à un endroit à grand public, hein, public de masse, comme un festival de musique comme ça, et qu'elles savent que la grande majorité des publics est plutôt blanc, elles savent aussi, inconsciemment, elles ont intégré cette charge mentale-là, qu'elles ont un plus gros risque de petites altercations violentes, voire d'altercations racistes, quoi. Et donc, il y a une barrière symbolique automatique, quoi. Donc on ne parle même pas encore du prix d'entrée, on parle juste d'une barrière symbolique culturelle, je me sens pas safe, quoi. Et donc, du coup, on a un travail aussi à faire, nous, pour pouvoir faire en sorte qu'on peut prévenir ce type d'agression, d'altercation, d'oppression, et après, éventuellement, prendre en charge, pour faire en sorte que des personnes qui sont attirées, peut-être par la programmation musicale, mais qui ont une barrière symbolique pour venir, peuvent se sentir en sécurité pour y aller, quoi. Et alors là, après, il y a d'autres manières d'aller chercher ce type de public, mais au moins il faut pouvoir non pas toujours se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aller les chercher, est-ce qu'il faut mieux communiquer avec eux, etc. Alors qu'en fait, parfois, c'est des choses en interne qu'il faut pouvoir faire évoluer, quoi. Et donc d'abord se regarder soi-même avant de se dire qu'est-ce qui va pas chez les autres.
Et alors concrètement, ça marche comment à Esperanza cette année par rapport à cette thématique de démasquer ces privilèges?
Alors déjà, l'idée, c'est partir du fait que les personnes qui sont a priori les plus légitimes pour en parler, en parlent. Ce qui n'est pas le cas là pour le moment, présentement, avec moi en l'occurrence. Et donc c'est de donner la parole, la place et une vitrine à toute une série de collectifs qui portent ces questions-là. Et a priori, en fait, des collectifs de militants et militantes qui vivent directement les injustices qu'elles dénoncent. Alors, dans ce cadre-là, on a plusieurs nouveaux collectifs et des anciens, évidemment, qui reviennent dans cette optique-là. Alors, la première, c'est sur les privilèges de classe. Il y a ATD Quart Monde et le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui sont là et qui, eux, évidemment, travaillent les privilèges de classe et la lutte contre la pauvreté. Ensuite, on a toute une série de collectifs sur les questions LGBTQI+, notamment, en premier lieu, les chefs
qui sont en fait
c'est une fédération des cercles étudiants homo, en fait, LGBT, quoi. Et c'est une fédé, ouais.
Voilà, ça, donc, oui, j'allais dire qu'il y a un tout petit peu plus institutionnel, ouais. Quoi. Et après, on a à côté des collectifs queer liés aux 123 logements à Bruxelles, 123 logements qui s'est éclaté en plusieurs lieux maintenant à Bruxelles.
Ouais, mais par contre, l'année passée, parce que le 123, le fameux 123 à Bruxelles,
a fini. Mais disons que le réseau existe toujours et qu'en marge de ce réseau-là, il y a des réseaux queer assez hyper intéressants quoi, sur Bruxelles. Donc là, c'est complètement underground. Donc on a un peu les deux extrêmes, quoi, les chefs plus institutionnels et les côtés plus underground sur les questions LGBTQI+, qui seront là. Ensuite, toujours sur les questions LGBTQI+, on a une personne de la Rainbow House qui interviendra dans un débat. Et par ailleurs, c'est aussi la Rainbow House qui nous a pas mal accompagnés dans les formations des bénévoles du Village des Possibles en amont du festival pour travailler ces questions. La Rainbow House qui est aussi une fédération d'associations LGBTQI+, mais qui a vraiment une optique hyper intersectionnelle, donc hyper intéressante, donc qui croise aussi les rapports de domination. On n'en a pas beaucoup parlé là de ce que c'est l'intersectionnalité, mais donc c'est évidemment de pouvoir considérer qu'il y a des situations très particulières qui sont à l'intersection entre plusieurs rapports de domination, racisme, sexisme, capitalisme et autres, évidemment. Donc ça, c'est pour les questions LGBTQ+. Sur les questions sociales...
Il y a Jean Pluriel aussi.
Et tout à fait, je passe à côté.
Genre,
sur ouais. Les identités de... Oui, en tout cas, sur les questions trans, en fait, elles viennent... Enfin, Jean Pluriel vient animer un atelier sur... Ça, qui s'appelle Trans pour les nuls, et c'est un peu de se repérer par rapport justement à toutes ces définitions, on en parlait tout à l'heure, identité sexuelle, orientation sexuelle, et donc voilà, de quoi on parle quand on parle de genre, de cisgenre, de binaire, non-binaire, lesbienne, homosexuel, trans, queer, voilà ça. Voilà,
donc c'est intersexe, asexuel, pansexuel.
Pansexuel, ouais.
Et donc eux, ils viennent justement clarifier tout ça et ça va être hyper intéressant. Ensuite, sur la question de racisme, on a Mémoire coloniale. Donc eux, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, ils travaillent effectivement la question du racisme contemporain à travers l'histoire coloniale. C'est une manière parmi d'autres d'appréhender le racisme, mais en tout cas dans nos pays occidentaux, c'est hyper intéressant de bosser avec eux de manière générale. Les questions de sexisme vont être prises en charge par le collectif 8 mars et Sacha qui sera évidemment dans le Village des Possibles indépendamment du plan Sacha qui est présent dans le festival. Et alors on a un collectif qui fait un peu le résumé de tout ça, qui est Climate Justice Camp, qui eux organisent en fait un camp climat début septembre et qui veulent justement pouvoir organiser un camp climat et lutter pour le climat sans reproduire des rapports de domination. Et donc eux, ils ont eu tout un processus pendant presque un an maintenant d'ateliers qui justement intègrent toutes ces questions dont on vient de discuter avec des personnes concernées quoi, et en donnant la parole généralement que à ces personnes concernées là pour dire ok, maintenant qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce que vous êtes déjà senti dans telle manifestation, vous avez été à Ndegolande, qu'est-ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que vous n'y avez pas été. Et en allant aussi chercher des collectifs qui étaient prêts à discuter avec eux mais qui n'avaient pas été intégrés dans la lutte climatique pour voir comment est-ce qu'ils les voyaient, pour justement pouvoir essayer de faire en sorte que la lutte climat ne soit pas au-dessus de la hiérarchie de toutes ces luttes-là, mais pouvoir intégrer évidemment ces différentes luttes dans l'optique aussi où, et je terminerai par là, à l'avenir, si effectivement le dérèglement climatique s'affirme de manière de plus en plus violente, c'est les personnes les plus fragilisées de notre société qui vont le subir directement, quoi. Et donc c'est dans cette optique-là aussi qu'il faut pouvoir faire en sorte de leur donner la parole dès maintenant et traiter ces questions-là en même temps.
C'est ce que j'allais dire en fait, parce que quand on voyait...
Et j'ai encore un truc à dire après, j'ai oublié.
Cette année, quand il y a eu toutes les manifestations Gilets jaunes, on avait l'impression d'une sorte de fracture entre deux parties de la population, ceux qui allaient justement aux manifestations Gilets jaunes et ceux qui allaient aux marches pour le climat. Il y avait comme une sorte de... On a vu des Gilets jaunes à la marche pour le climat, mais... Voilà, comme s'il y avait deux luttes complètement différentes alors qu'on aurait pu converger. Et là, c'est des choses qui posaient quand même question de se dire, voilà, ça concerne différentes... Enfin, les gens dans la population n'ont pas les mêmes...
Priorités. Non, c'est clair.
Et qu'il n'y a pas moyen de converger ensemble vers... on aurait pu marcher tous ensemble, en fait. C'est une façon de penser aussi par rapport à justement Climate Camp.
Climate Justice Camp.
Voilà.
Alors l'optique, et c'est un peu l'optique. Alors juste entre parenthèses, il y a deux collectifs de Gilets jaunes qui seront aussi présents dans le Village des Possibles. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller les chercher au micro, ce sera vraiment intéressant. Et par rapport sur les questions de racisme, il y a aussi le collectif Kaina, qui sont des féministes musulmanes qui interviendront dans un débat. Bon, comme ça, j'ai plus ou moins dit les nouveaux, mais je n'ai sûrement oublié. Et alors pour répondre à tes questions, nous, l'optique dans laquelle on est, c'est ce qui est de la convergence, donc marcher ensemble, c'est arrêter avec le rêve que sur toutes les luttes, tout le monde va pouvoir tout le temps marcher ensemble.
Si, c'est vrai, ça peut, c'est possible.
Moi, personnellement, en tout cas, j'y crois pas. Et surtout, pouvoir amener ce récit-là de manière un peu coercitive, genre c'est notre objectif à tous. Non, tout le monde n'est pas du tout dans ce trip-là.
Non,
par contre, trouver des points de convergence ponctuels sur lesquels se battre, peut-être pas tout le temps avec tout le monde, mais avec certains quand c'est cohérent, oui, ça c'est hyper pertinent. Quoi.
C'est là-dessus que j'en avais. Hein.
Et effectivement, et là, en l'occurrence, ça demande un travail en amont, ça demande un travail de terrain, ça demande de faire en sorte que aussi ces collectifs se fassent confiance, aillent aux rencontres de l'autre, aillent aux conférences de l'autre, aillent aux débats, etc. Pour faire en sorte que, effectivement, sur certains moments ponctuels, on puisse avoir un plaidoyer politique et éventuellement un éventail d'actions, de mobilisations qui peuvent converger. Il y a eu des actions entre Gilets jaunes et Activistes pour le Climat cette année, entre Act for Climate Justice et les Gilets jaunes. Il n'y a pas une convergence Gilets jaunes, Act for Climate Justice. Il y a eu des actions ponctuelles sur certains points sur lesquels ça a été hyper pertinent de le faire. En l'occurrence, bloquer à la fois BNP Paribas Fortis et en même temps Total Afolui le même jour.
Ça, c'était génial d'ailleurs.